28-28-3. Yes.
Média numérique libre. Ondulation.
Natacha Lapeyroux, bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, si je ne me trompe pas. Vous avez réalisé une thèse portant sur les représentations télévisuelles des femmes dans le sport à la télévision. Ma première question est simple. Pourquoi cette thématique vous a-t-elle tant passionnée ?
Alors, c'est au départ, c'est une histoire un peu personnelle. C'est-à-dire que j'ai longtemps voulu faire de la boxe, en fait, et j'osais pas trop passer le pas. Et puis un jour, j'ai une copine qui m'a dit « Allez, Natacha, viens, on y va » et tout. Donc ça m'a aidé, on va dire, à franchir le cap. Et ça m'a passionnée. Je me suis tout de suite sentie super bien dans la salle de boxe et à ma place. Mais je me suis vite rendu compte que malgré tout, il y avait des résistances masculines. Et que pendant que je boxais, en fait, j'avais un entraîneur dans une salle parisienne qui me parlait au masculin, en fait, dans la salle de boxe, qui me disait « tu fais de la corde comme une fillette, t'es un petit con », enfin bref, des mots qu'on peut dire comme ça pour entraîner ou pour motiver, etc. Mais que normalement, on dit à un homme, en fait. Et dès qu'on sortait de la salle de boxe, en fait, il me reparlait au féminin.
D'accord.
Je redevenais une femme, en quelque sorte. Et donc, ça m'a vraiment posé des questions sur les représentations, en fait, de ce que c'est qu'un sport pour les hommes, ce que c'est un sport pour les femmes, et ce que c'est que l'identité, finalement, féminine et masculine, entre guillemets, dans le sport. Et on me posait aussi beaucoup cette question de « tu vas avoir le nez cassé, tu vas être défiguré », avec cette idée que finalement, la femme, elle doit rester belle et dans le charme et pas être dans la force physique, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui a été au cœur, en tout cas, de mes premiers questionnements de recherche. Et après, quand j'ai continué ce sport, j'ai rencontré des sportifs de haut niveau dans la boxe. Qui avait vraiment, vraiment du mal à être médiatisé, à se faire connaître, à avoir des sponsors, et qui étaient toujours amenés à leur féminité. Et donc, c'est ce qui a fait naître un peu mon sujet de recherche que j'ai élargi à d'autres sports, parce que c'est super intéressant quand on confronte les différentes normes entre les sports et l'histoire de ces sports et les différentes manières dont on intègre les femmes ou non, ou qu'on dit que c'est un sport masculin ou féminin. Enfin, ça m'a passionnée, en fait, vraiment. Donc voilà, c'est de là dont sont nés mes questionnements de recherche.
Et votre thèse, donc, je la rappelle, « Les identités féminines à l'épreuve du sport, représentation télévisuelle des sportifs de haut niveau en France de 2005 à 2015 ». Je sais que c'est très difficile de résumer en quelques minutes un travail de grande ampleur comme celui-ci, mais est-ce que vous pouvez essayer ce challenge pour nous ?
Je peux faire ça.
Je vous laisse.
Je vais pitcher ça rapidement. Alors, en gros, j'ai choisi une tranche de 10 années pour avoir une période où je pouvais voir des évolutions. Et ce qui était intéressant sur cette période-là, c'est qu'il y avait eu l'apparition des chaînes de la TNT, en fait, en 2005. Et donc, elles avaient besoin de remplir leur grille de programme et qu'avaient commencé à diffuser les championnats du monde de certains sports qu'on voyait pas du tout, comme la boxe, le football ou le rugby des femmes. Et donc, c'était une période qui était vraiment charnière et où à un moment aussi, les pouvoirs publics ont commencé à mettre en place beaucoup plus des plans de féminisation au sein des fédérations sportives. Il y a eu vraiment des questionnements, en fait, autour du sport des femmes, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, dans ma thèse, je me suis intéressée à voir les évolutions les discours, en fait, et les stéréotypes qui étaient portés sur ces femmes, mais aussi ce qu'elles apportaient, en fait, en termes d'agentivité, c'est-à-dire en termes déconstruction un peu des normes de genre, en fait, puisque maintenant on voyait beaucoup plus, et je me suis aussi intéressée aux JO, donc dans les championnats du monde et dans les JO, on voyait beaucoup plus les femmes aussi dans des sports qu'on voyait pas avant. Et donc aussi, voilà, c'était intéressant de regarder à la fois les stéréotypes, mais aussi les évolutions. Et donc, pour résumer, pour la faire très courte, en gros, ce qui m'a interrogée, je me suis intéressée à des sports historiquement dits féminins, comme le tennis, qui est plutôt mixte, mais il y a des stars, en fait, depuis longtemps dans le tennis des femmes. Elles touchent... les mêmes sommes que les hommes, elles ont des sponsors et c'est un des rares sports en fait où les femmes accèdent à ce statut. Le basket, parce qu'en France c'était le premier sport collectif où il y avait le plus de femmes licenciées. Et je me suis intéressée à la gymnastique parce que c'est la représentation un peu d'un idéal féminin, en tout cas dans le sport. Et je me suis intéressée donc à trois sports historiquement dits masculins qui sont la boxe, le football et le rugby. Et ce qui était très intéressant et surprenant, c'était de me rendre compte qu'en fait, dans tous les sports, entre 2005 et on va dire jusqu'à 2009-2010, en fait, elles souffraient toutes, dans toutes ces disciplines, de stéréotypes très très forts. Où elles étaient sexualisées, où on parlait beaucoup de leur beauté, ou au contraire de leur transgression par rapport aux normes de genre. Serena Williams était réduite à sa couleur de peau, entre guillemets, en tout cas, était l'objet de stéréotypes. Maria Sharapova, qui était quand même championne de tennis, mais qui correspondait aux normes de beauté, elle était renvoyée à l'image d'un mannequin. Les gymnastes étaient un peu décrites comme étant très chorégraphiques et pas très athlétiques. Enfin, il y avait tous ces stéréotypes qui circulaient, et les footballeuses, le rugby, la boxe, là, c'était très, très peu intelligible, en tout cas dans les commentaires. Et elles étaient beaucoup comparées à des hommes, en fait, à ce moment-là. Et il y avait très peu de reconnaissance, en tout cas des qualités sportives. Il y avait vraiment beaucoup de stéréotypes. Et ça a évolué à partir de 2010, on va dire, vers une forme de reconnaissance quand même des performances sportives, vers une sexualisation qui était moins explicite, on va dire, et plus insidieuse, en tout cas qui était moins présente. Mais on a eu une forme de sexisme bienveillant, on va dire, entre guillemets, qui est apparu, puisqu'on demandait, enfin, on associait en fait les performances des femmes à des qualités dites féminines, comme l'idée que ce seraient des bonnes copines, des filles qui s'entendraient bien, qui sont bien disciplinées, qui écoutent bien les règles, etc. Et donc, c'était un peu ça. En gros, l'objet de ma thèse.
D'accord. Alors, on va développer quelques-uns de ces points que vous avez soulignés, puisque on a fait quand même nos petites recherches un peu à droite à gauche. Bon, on n'a pas eu le temps d'aller trop en profondeur quand même, mais justement, on est là pour ça, pour peut-être y aller un peu plus. Avant cela, je voulais justement partir de ces stéréotypes que vous aviez soulignés avec une séquence télévisuelle. Tour de France 1987, le champion de France de cyclisme Marc Madiot s'adresse alors à Jeannie Longo, qui était son homologue féminine, dans l'émission À chacun son tour. Je vous laisse écouter.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis.
Tiens, mais pourquoi
voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi.
J'aimerais savoir pourquoi un homme, écoutez, c'est plus joli sur un vélo qu'une femme. Je pense qu'il faut savoir respecter.
Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel.
On ne peut pas dire.
Maintenant, si ça te plaît, t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien.
Voilà, bon, un petit extrait de cette séquence. Natacha Lapeyroux, vous étiez certainement très très jeune à cette époque-là, c'était il y a 37 ans. Que vous inspire cette séquence que vous venez d'écouter ?
Elle est emblématique, en plus celle-là, elle est culte. On l'a vu et on l'a revu et entendu, et elle résume un peu en quelques phrases des gros stéréotypes en fait qu'on peut avoir sur la place des femmes dans le sport, mais plus largement en fait dans la société, en fait, avec cette idée finalement qu'une femme, bah, y a cette idée de, d'incarner une forme de beauté, une beauté qui serait assez passive, en fait, finalement, et qui serait l'objet du regard du désir de l'homme aussi. Et que finalement, une femme en train de transpirer ou de faire un effort, ce serait un peu hors norme et ce serait ouais, déviant et pas acceptable, en fait. Ce serait du, presque du côté de l'abject. Dans la façon dont il le dit, c'est presque du côté de l'abject, en fait, d'être une femme et que ça, ça virilise. Il y avait vraiment cette idée de... C'est Catherine Louveau qui avait développé ce concept, cette idée de procès de virilisation aussi, que l'idée que dès lors qu'une femme entrait dans certaines disciplines sportives et s'appropriait les codes de masculin, en fait, finalement, ça les viriliserait. Et je crois que c'est bien résumé un peu dans... Dans cet extrait-là, en tout cas...
J'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est notamment ce qu'il a dit. Enfin, ça fait écho par rapport à ce que vous disiez, finalement, place quasiment de protection pour justifier le fait qu'une femme ne devrait pas faire ce type de pratique sportive.
Oui, voilà, qu'elle ne devrait pas être dans l'effort, qu'elle... C'est une forme de sexisme un peu qu'elle ne devrait pas souffrir et comme si elle ne pouvait pas prendre de plaisir finalement aussi à pratiquer ces disciplines sportives-là, en fait, et comme si elles n'avaient pas de... En fait, on a construit le sport un peu aussi au départ sur l'idée de canaliser les pulsions des hommes, en fait, à une époque où le régime est devenu parlementaire, en fait, enfin, où on commençait à mettre en place des formes d'organisation de la société moins violentes, et il y avait vraiment cette idée de canaliser la violence des hommes, en fait, et que les qui seraient les dirigeants, etc. Et il y a cette question, en fait, qui plane encore un peu aujourd'hui, finalement, et que les femmes s'occupaient du foyer, etc. Et moi, ça m'a toujours interrogée et ça m'interroge. C'est ce qui m'interrogeait aussi dans ma thèse et ce qui m'a passionnée, c'est les femmes subissent certaines formes de violence et comme les hommes, elles ont des formes d'agressivité, en fait, et elles ont aussi besoin de se dépenser, de se défouler. Et c'est assez étonnant, en fait, qu'on aille du côté de la souffrance pour une femme dès lors qu'elle fait un effort physique, alors qu'elle peut y trouver dans le dépassement de soi, en fait, quelque chose d'agréable et dont elle a besoin, en fait.
Et justement, jusqu'à quel point, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, mais jusqu'à quel point cet idéal féminin, entre guillemets, qu'on a construit, peut-il être remis en cause aujourd'hui dans le sport ? On a fait des progrès depuis J'imagine.
Ouais, ça a quand même évolué. Ça évolue doucement, mais ça évolue.
On a du mal à imaginer une séquence pareille aujourd'hui, par exemple, à la télévision.
Ce serait plus possible de manière si explicite aujourd'hui. Ce serait plus possible. Et en plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc ça réagirait, en fait, dans tous les sens. Et c'est plus accepté, en fait. Ce sexisme explicite comme ça, il n'est plus du tout toléré. Mais il existe toujours par petites phrases comme ça qui arrivent par petits pics et phrases plus insidieuses, on va dire, quand même, qui existent toujours, mais c'est moins fréquent et moins fort.
D'accord.
Et il y a une forme de reconnaissance quand même maintenant qui arrive petit à petit où finalement, il y a toujours cette hiérarchisation, en fait, qui est faite entre le sport des hommes et le sport des femmes. Quand on dit le sport, on va penser directement aux hommes.
On ne va pas dire sport masculin, oui.
Ouais, on ne dit jamais sport masculin, exactement. Alors qu'on dit sport féminin. Et donc, forcément, ça induit une hiérarchisation qui est forte, en fait. Et ça, c'est un truc qui devrait, j'espère, évoluer à terme. Mais bon, ça, il y en a pour très, 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 très longtemps.
Oui. Bah, vous avez travaillé justement sur le football et le basket, vous disiez tout à l'heure. Dans le football, par exemple, on constate que la pratique féminine de haut niveau a réussi à se faire une toute petite place au sein de la télévision. On voit maintenant l'Olympique Lyonnais, on voit le Paris Saint-Germain. Des matchs de Division 1 sont diffusés sur Canal+, si je ne dis pas de bêtises. Les grandes compétitions également sont diffusées. Mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais qu'on part quand même de très très loin et que, en fait, on part de tellement loin que le bout du tunnel pour atteindre cette égalité semble encore très loin. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Ah bah oui, tout à fait. C'est déjà énorme, en fait, ce bout de chemin qui a été fait. Parce que moi, quand j'ai fait ma thèse, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est de 2005 qu'on a commencé à diffuser, ne serait-ce que les championnats du monde, en fait, à la télévision des femmes. Et du coup, c'était sur des chaînes de la TNT. Et il a fallu attendre, je crois, 2019 pour le foot, en tout cas, pour que ce soit diffusé sur des grandes chaînes. Je sais plus si c'était TF1 ou France 2. En tout cas, et c'est là où on se rend compte que, en fait, ils se sont rendu compte déjà que c'était rentable à ce moment-là, parce que sur les chaînes de la TNT, comme les droits coûtent moins cher et qu'ils avaient fait des records d'audience, en vrai, il y avait un vrai public derrière et eux avaient pris un risque. Ils s'étaient rendu compte que c'était rentable et donc ça avait attiré les autres chaînes. Donc il y a cette question de la rentabilité qui entre en compte, parce qu'on a longtemps pensé qu'il n'y aurait pas de public derrière, alors que les études montrent le contraire, en fait, et que ça attirait pas un public d'hommes, alors que c'est pas tout à fait juste. Et donc effectivement, ça évolue au niveau des commentaires, ça évolue au niveau de leur rémunération et de leurs conditions de travail. Il y a quand même une forme de reconnaissance. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui prennent la place de consultantes pour commenter les retransmissions. Et donc ça change aussi un peu le regard qu'on peut avoir et les discours. Et donc c'est vrai que ça évolue fortement, en fait, parce qu'on part de très très loin. Mais avant d'atteindre l'égalité, je pense qu'une footballeuse professionnelle, elle est à 3 000 euros par mois avec des primes. Et voilà, on connaît les salaires des footballeurs. Donc, on est très, 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 très loin dans l'égalité de traitement, l'égalité salariale, l'égalité et l'avancement de... et en fait, c'est un enjeu super important, en fait, pour que ça se développe, en fait, parce que très longtemps, en fait, les sportives de haut niveau, et c'est encore le cas dans plein de disciplines, elles devaient travailler à côté de leur vie de sportive de haut niveau, plus si elles étaient mères, gérer leur famille, plus faire des études si elles faisaient des études, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus complexe de mener une carrière et de faire des performances dans ces conditions-là. Et donc, l'enjeu de la redistribution économique, l'enjeu que les fédérations investissent, les clubs, etc., il est très, très fort aussi pour qu'il y ait une évolution, une meilleure médiatisation et que ça se développe, en fait. C'est hyper important.
On a parlé de la situation de la France dans ses représentations aussi du sport féminin, mais qu'en est-il ? Enfin, vous avez travaillé sur la représentation de la France, mais est-ce que vous avez pu observer aussi des choses par rapport aux pays étrangers sur des modèles un peu en termes de diffusion en football féminin ou basket féminin, par exemple ? Est-ce que d'autres pays sont beaucoup plus en avance sur cette question-là ?
Alors moi, j'ai vraiment travaillé sur la France, hein, donc je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail.
D'accord.
Mais il y a des pays, par exemple en Allemagne, où la boxe s'est développée beaucoup plus vite, ou aux États-Unis, la boxe des femmes, et où c'était beaucoup plus visible, avec des meilleures conditions d'entraînement. Pour le foot,
aux États-Unis, ouais.
Bah ouais, elles ont des bonnes conditions de travail, et c'est considéré... Mais là, c'est intéressant parce que ça dépend des pays, et ce qui est un sport national n'est pas le même selon les pays. Et en fait, aux États-Unis, c'est considéré comme un sport de femmes, en fait. C'est le soccer, et c'est plus le football américain qu'on va associer aux hommes. Et elles sont super performantes, elles sont dans des très bonnes conditions d'entraînement, et elles bénéficient d'une bonne exposition médiatique, et aussi ça leur permet d'être plus cette position confortable leur permet d'être plus engagée aussi dans la lutte pour l'égalité, en fait.
Oui, on se souvient de Megan Rapinoe qui est extrêmement en avance sur ce genre de lutte. Ouais.
Exactement, parce qu'elle est dans des conditions aussi qui lui permettent, en fait, de pouvoir s'exprimer librement.
Oui, tout à fait. Vous parliez des salaires mensuels bruts moyens, juste pour faire un petit rappel pour nos auditeurs. Le salaire mensuel brut moyen à Lyon, qui est quand même le club qui paye le plus au niveau des moyennes chez les femmes, c'est 12 000 euros. Le salaire brut moyen dans toute la Ligue 1 est autour de 100 000 euros. Voilà, pour voir un peu les différences. Je parle sous votre contrôle, mais voilà, c'est les données là que j'ai trouvées à l'instant en allant sur des sites plutôt fiables pour le coup. J'avais aussi une question pour le coup par rapport au tennis, puisque vous avez travaillé là-dessus. On a le sentiment que c'est l'un des rares sports à être bien plus en avance sur cette question, qui semble mettre presque autant en avant les matchs des femmes que ceux des hommes. Quand on regarde des chaînes comme Bein Sports, Eurosport ou France 2 pour le Roland-Garros, on voit quasiment autant de matchs de femmes que d'hommes. Les prize money également sont exactement les mêmes entre femmes et hommes dans les grands chelems comme Roland-Garros. Trouvez-vous aussi que le tennis est un sport égalitaire, ou y a-t-il encore des choses à améliorer pour atteindre cette véritable égalité?
Alors c'est super intéressant le tennis à analyser, parce que justement il y a cette question de sport qui s'est développé très tôt chez les femmes, rare sport où elles ont le même salaire, où elles accèdent au même statut. Les compétitions ont lieu au même moment que celles des hommes, donc elles bénéficient aussi de cette exposition-là en fait. Par exemple pour le football, les compétitions n'ont pas lieu au même moment, donc ça va pas être les mêmes auditeurs, mais c'est vrai que globalement ils retransmettent quand même pratiquement autant, je pense. J'ai pas quantifié, mais le sport des femmes et le sport, les matchs en tout cas des hommes et des femmes, mais par contre au niveau des commentaires, ça reste quand même assez stéréotypé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un sport qu'on pratique en jupe. Et en fait, c'est le sport qu'on pratique en jupe de manière assez dénudée finalement, qui est le plus à égalité avec les hommes. En fait, c'est celui où l'identité féminine elle est la plus incarnée par la tenue finalement.
Ouais, ce fameux idéal féminin dont on parlait tout à l'heure quelque part.
Ouais, voilà, c'est tenue, ça. Ouais. Et c'est assez intéressant de constater ça. Et après, malgré le fait qu'elles étaient... Il y a toujours cette question justement du price money qui est remis en question aussi, parce que les compétitions durent moins longtemps, parce que ce serait moins physique, parce que voilà, il y a toujours
ce sont des matchs de 3-7, oui. Sur les grands chelems, ce sont des matchs de 3-7, alors que pour les garçons, ce sont des matchs de 5-7 sur les tournois du grand chelem. Oui.
Voilà, donc il y a toujours une forme de sexisme insidieux quand même qui est là, et des commentaires qui restent aussi parfois assez sexistes sur la beauté de certaines sportives, ou sur Serena Williams qui serait arrogante, égoïste. Des stéréotypes finalement qui ont été montrés dans les recherches, qui sont souvent associés aux athlètes noires en fait. Voilà. Et c'est assez intéressant aussi de voir qu'une Maria Sharapova par exemple, qui gagnait très très bien sa vie, elle était la mieux payée au départ, parce qu'elle elle avait beaucoup de sponsors et de suivi au niveau publicitaire en fait, parce que elle incarnait cette forme de beauté, t'es grande, blonde, longiligne, etc. Alors que Serena Williams gagnait beaucoup plus de grands chelems, en fait, elle était moins bien rémunérée pendant très 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 longtemps, et il a fallu que Maria Sharapova soit suspendue, je crois que c'était en 2016, pour que Serena Williams soit la plus rémunérée en fait. Donc on voit que ça évolue, mais il y a quand même une forme de discrimination quelque part qui se fait sur des critères de beauté, des critères ethno-raciaux. Et ce qui est super intéressant aussi chez Serena Williams, c'est comme au départ le tennis s'est associé à un sport blanc et bourgeois, et avec sa sœur elles ont quand même apporté de nouvelles représentations en fait de ce que c'est que d'être une tenniswoman de haut niveau, en venant d'un milieu populaire, en étant noire, etc. Donc je dirais pas que, en fait, on est dans une égalité de droit, on va dire, Mais je dirais pas que c'est égalité non plus avec les hommes dans ce que ça incarne et dans.
Peut-on élargir sur le cas de Amélie Mauresmo aussi, puisque je me rappelle des représentations qui pouvaient circuler sur des magazines, les Guignols de l'info également. À un moment donné, on avait fait une de leurs principales cibles pour aucune autre raison que, je cite Bruno Gassiot, c'était drôle, d'après lui. Et puis après en avoir discuté avec avec Pierre Lescure, qui était son patron de l'époque, Pierre Lescure lui aurait dit oui, mais quel est son pouvoir de nuisance en fait pour que vous vous acharniez jour après jour avec elle. Et en fait, il se trouve que lui et les autres co-auteurs des Guignols se sont réunis, puis au bout d'un moment, ils se sont dit oui, bon, ben, on va laisser tomber parce qu'effectivement, elle n'a pas de pouvoir de nuisance par rapport aux politiques et c'est vrai qu'on s'est pas mal acharné sur elle. Voilà, tout ça pour revenir sur le cas Amélie Mauresmo. Qu'est-ce que vous en pensez également de son traitement? Parce que c'est pareil, on a l'impression qu'elle n'a pas été considérée à sa juste valeur par rapport justement à ces fameux critères que vous citiez également par rapport à Serena Williams, le fait que. C'est une sportive lesbienne aussi. Voilà, est-ce que dans quelle mesure ça a joué contre elle, contre le fait qu'elle soit considérée vraiment comme une légende, puisque c'est une légende pour le coup. Elle a quand même gagné deux tournois du Grand Chelem, hein, entre autres.
Oui, tout à fait. C'est une légende du sport français et elle a incarné une forme de réussite dans le tennis. Hein. Ça, c'est une évidence Je ne sais plus exactement comment elle a été outée Amélie Mauresmo, parce que ce n'est pas sur la période que j'ai analysée exactement. Je ne sais plus si c'est les médias qui l'ont dit ou si c'est elle. Ça, ce serait à vérifier. Mmh. Mais cette question d'être très performante, très physique, déjà dans le sport en général, et d'avoir des muscles prononcés, on va très vite se demander, il y a un peu ce procès de suspicion d'homosexualité en fait chez les femmes qui s'investissent dans le sport à haut niveau, si elles ne restent pas très féminines en fait. Et Amélie Mauresmo, elle a carrément souffert de son identité en fait sexuelle, parce que je pense qu'il y a des sponsors qui l'ont lâchée. Elle a été moquée, elle a été discriminée en fait, hein, tout simplement, parce que justement, elle s'éloigne. Dès lors que les femmes dans le sport s'éloignent, et surtout à cette époque-là, des normes de beauté traditionnelles et des normes de beauté traditionnelles, je dirais occidentales et hétérosexuelles en fait, elle souffre de stigmatisation en fait.
Ouais. Et puis il y a aussi une autre chose à laquelle je pense dans justement cette diffusion et cette visibilisation du sport féminin, c'est que lorsqu'elle a remporté son tournoi de Wimbledon, c'était au même moment que la finale de Coupe du Monde des garçons en football en 2006. Et on sait que ça, pour le coup, sa victoire à Wimbledon avait été très largement éclipsée par ce grand événement des sportifs hommes, pour le coup.
Donc, mais c'est ça. Tout à fait. Les femmes, elles subissent cette invisibilisation un peu dès lors qu'il y a un grand événement.
Est-ce que ça aurait été, voilà, parce que ma question c'est, est-ce que ça aurait été si un homme avait remporté Wimbledon à la place de d'Amélie Mauresmo à ce moment-là, alors qu'on était effectivement en pleine période de Coupe du Monde, est-ce que à votre avis, il aurait quand même été, il serait beaucoup plus sorti de l'ombre et on en aurait quand même beaucoup plus parlé? Ou est-ce que Mauresmo a aussi payé sa condition de femme à cette époque-là?
Je pense qu'elle a quand même aussi payé sa condition de femme à ce moment-là. Et à cette époque-là, justement, en 2006, elles étaient beaucoup, beaucoup plus éclipsées par les hommes, en fait, les sportifs de haut niveau. Maintenant, on fait un petit peu plus attention. Mais dès lors, de toute façon, qu'il y a un grand événement sportif dit masculin, les femmes sont un peu mises dans l'ombre, en fait, si ça a pas lieu au même moment. Et c'est vrai que maintenant, ils essaient un peu plus de faire attention à ça, mais on n'y est pas encore. Et en France aussi, le tennis, on l'associe beaucoup à Roland-Garros, en fait. Et donc, si elle avait gagné Roland-Garros, ça aurait peut-être été...
Alors que Wimbledon est le tournoi le plus réputé au monde.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Non, c'est exactement. Vrai. Je voulais sauter du tennis pour voir avec vous si vous aviez en tête d'autres sports sur lesquels on se rapproche de cette égalité entre femmes et hommes, un peu à l'image, ou en tout cas cette égalité de droit telle qu'on peut l'avoir d'une certaine manière dans le tennis. Est-ce que vous avez une idée, même en termes de représentation pour le coup, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, cette représentation télévisuelle, c'est ce sur quoi vous avez travaillé et c'est aussi notre thématique d'émission. Est-ce que vous en voyez des sports?
Bah, pas vraiment, non, en fait. Ouais. À part peut-être l'athlétisme aussi. En fait, alors, il y a deux choses qu'on peut évoquer. C'est que, c'était intéressant ça aussi dans ma recherche et je ne m'attendais pas à ce résultat-là. C'est qu'il y a les compétitions qui ont lieu au même moment que celles des hommes. Elles étaient quand même médiatisées depuis beaucoup plus longtemps, depuis les années 60, 70, comme le tennis ou l'athlétisme. L'athlétisme, elles ont quand même une bonne médiatisation aussi. Et la gymnastique. Parce que c'est des compétitions qui ont lieu au même moment. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est des disciplines dans lesquelles les femmes sont dénudées, en fait, qui ont lieu au même moment, en fait. De l'athlétisme, elles sont en culotte et en brassière, en général. La gymnastique, elles sont juste au corps.
La natation.
La natation aussi, exactement. Et c'est ces disciplines dans lesquelles elles sont habillées un peu, de la même manière que leur homologue masculin et où elles doivent aussi être dans la confrontation physique, en fait, qu'on voyait pas. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et je suis en train de me perdre. C'était quoi déjà la question de départ? Je suis désolée.
C'était pour savoir, en fait, si vous aviez en tête justement des sports sur lesquels on se rapprochait de cette égalité entre femmes et hommes, outre le tennis.
Et donc justement, alors peut-être en termes de visibilité, on s'en rapproche sur ces disciplines dont je parlais, l'athlétisme ou le
tennis. Ce sont des compétitions où on les mêle en fin de compte.
La gymnastique, voilà, on les mêle. Mais par contre, dans le traitement et la façon d'en parler, pas du tout.
Ouais. Comme ce que vous avez expliqué tout à l'heure pour le tennis, c'est encore très stéréotypé dans le commentaire.
Oui, voilà. Les gymnastes, on va les ramener à leur physique, leur beauté, des critères de beauté. La gymnastique, par exemple, c'est pareil, s'associe à un sport de femme blanche au départ. Et Simone Biles, elle a apporté carrément des nouvelles représentations dans ce sport, mais elle était décrite comme étant quand même moins féminine que certaines autres, et explicitement, hein, comme ça, certaines autres gymnastes et beaucoup plus athlétiques. Donc, toujours des stéréotypes ethnoraciaux ou sur la beauté, etc. Et elles sont toujours dès lors qu'elles sont très athlétiques, en fait, on va dire, et ça c'est pour tous les sports, et finalement même pour la gymnastique, ça aussi ça m'a étonnée, c'est qu'on va dire qu'elles font comme les hommes, finalement. Alors que bon, c'est une gymnaste qui fait des performances, en fait. Et donc ça permet de maintenir aussi une hiérarchisation. Et sur ces questions-là, ouais, donc il y a des évolutions quand même, mais ça reste... dans les discours, ça reste très stéréotypé. Et en athlétisme, là, c'est intéressant parce que on voit les femmes avec parfois les cheveux lâchés, des bijoux. Et en fait, je me posais cette question de quelle mesure c'est pas gênant, en fait, de autant jouer la féminité sur le terrain, en fait, pour la performance sportive. Et là, dans ce cas-là de l'athlétisme, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'athlètes intersexués, en fait, comme Caster Semenya, et ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que la bicatégorisation, en fait, dans quelle mesure elle est viable ou pas, et quand est-ce qu'on discrimine quelqu'un. Et de demander aussi à quelqu'un de suivre un traitement alors qu'il n'est pas en mauvaise santé pour faire baisser son taux de testostérone. On ne demande jamais à un homme de faire baisser son taux de testostérone, en fait. Donc, oui, il y a un traitement qui est différencié.
D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, sur la question des athlètes trans. C'est une question qui est actuellement explosive. Il y a aussi une partie de femmes athlètes qui sont très gênées de voir parfois un athlète entre guillemets genré homme qui a fait sa transition pour devenir une femme et les intégrer en se disant que ses performances ne sont pas naturelles et qu'elles vont les éclipser alors qu'elles ont fait tous les efforts possibles et imaginables pour atteindre leur niveau de performance en tant que femme. Quel est votre regard en tant que chercheuse, même si je précise bien à nos auditeurs, ce ne sont pas vos thématiques de recherche principales, vous aviez vraiment travaillé sur la représentation des femmes, mais peut-être que vous avez aussi un regard quand même à nous apporter là-dessus.
Oui, j'ai pas travaillé sur ce sujet spécifique, mais en tout cas, ça pose des questions très intéressantes, justement sur les questions d'identité, de choix aussi de son identité en fait, et de remise en question de cette bicatégorisation sportive en fait. Le sport, il est fondé là-dessus, en fait, sur un côté les hommes, un côté les femmes, avec des identités très marquées. Il y avait eu des, quand même pendant très longtemps, il y en a encore par moment quand il y a suspicion des tests de féminité, parce qu'il y a toujours cette idée que les hommes sont plus forts finalement physiquement que les femmes. Et ça pose des questions, en tout cas, qui sont très intéressantes, justement, sur ce fondement du sport et ce rapport à la justice aussi. Il y a cette idée que le sport est juste, que c'est au mérite et que c'est l'entraînement qui fait que, alors qu'on sait très bien que physiquement, certaines personnes ont des avantages en fait aussi.
Demander à Victor Wembanyama dans le basket actuellement avec 2m24, c'est sûr, oui.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est de toute façon, c'est pas vraiment juste dans le fond. Enfin.
Ouais.
Donc, ça pose en tout cas des questions qui sont super intéressantes.
Ouais.
Mais et plus largement dans la société aussi sur l'acceptation des personnes trans en fait. Je trouve que c'est ça va beaucoup plus loin que dans la sphère sportive aussi, que se dire ils ont le choix de leur activité, ils ont le choix de concourir et de choisir leur identité.
Enfin, c'est une question, en tout cas, qui m'a l'air extrêmement complexe, quoi. C'est l'une des rares questions. J'ai l'impression que c'est très difficile d'avoir une position claire, nette et précise, puisque il semble y avoir tellement d'enjeux et tellement de problématiques compréhensibles de part et d'autre que c'est compliqué de se dire qu'on peut trancher cette question-là en une décision.
C'est pas simple. Il y a des chercheuses qui travaillent là-dessus, je sais, à l'Université Paris-Saclay, qui pourraient mieux répondre que moi, en fait, parce qu'elles ont creusé vraiment le sujet. Mais là, c'est vrai que ça remet complètement en question le fondement des règles, en fait, et des institutions sportives. Donc, c'est vrai que c'est une des questions qui est difficile à trancher, et le traitement médiatique aussi. J'avais lu quand même un article là-dessus où on les renvoie toujours aussi à leur on va leur poser la question de la transition, de finalement les renvoyer à leur identité, pas forcément parler d'eux en tant que sportifs. Enfin, c'est très compliqué de traiter de ces sujets-là. Ouais, c'est une question qui est complexe en fait. Ouais.
Vous avez travaillé sur les sportives, mais je voulais aussi quand même glisser un mot par rapport aux femmes journalistes de sport. J'imagine que vous avez également un avis sur la question. Je pense notamment à Marie Portolano, notre consoeur, ancienne journaliste à Canal+, qui avait sorti un documentaire coup de poing, encore disponible d'ailleurs sur la plateforme en ligne pour les auditeurs qui sont intéressés, de la chaîne cryptée. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Documentaire édifiant sur les pressions, le harcèlement sexuel que de très très nombreuses journalistes femmes qui ont témoigné dans ce documentaire ont subi dans le milieu. Il est aussi édifiant, ce documentaire, puisqu'il évoque les représentations des femmes dans le milieu et les cases dans lesquelles elles sont cantonnées. Vous, Natacha Lapeyroux, quel est votre regard sur la question des femmes journalistes de sport? Vous parliez tout à l'heure justement des commentaires stéréotypés, et ça, je pense que c'est aussi par l'absence de commentatrices femmes, puisque certes il y a des consultantes qui commencent vraiment à émerger dans le milieu, notamment du football, mais pas que, mais ça manque toujours de commentatrice. Moi, je pense à surtout Candice Roland sur l'équipe 21, qui est pour moi la seule femme ou l'une des très rares femmes en France à commenter des matchs. Et encore, ce ne sont pas les matchs les plus importants.
Oui, c'est très complexe. Et moi, sur la période que j'avais étudiée, en fait, j'avais recensé justement les identités sexuées des journalistes. Et en fait, les femmes, elles accédaient pas du tout au statut de journaliste. C'était que des hommes. Et c'était hyper étonnant pour moi de voir à quel point, en fait, on a une forme de male gaze, vraiment de regard masculin qui est posé en fait sur ce sport des femmes. Et en fait, au cours à l'évolution dans les 10 années que j'ai étudié, il y avait de plus en plus de femmes consultantes et ça apportait vraiment dont Amélie Mauresmo d'ailleurs, et ça apportait vraiment de nouveaux discours, de nouveaux regards sur le sport. Et en même temps, elles ne sont pas non plus l'exemple de certains stéréotypes. Hein. On est tous élevés dans certains stéréotypes et parfois sur la beauté, voilà, il y avait aussi des commentaires stéréotypés. Mais en fait, on les laisse pas accéder à la place de très peu, en tout cas à la place de journaliste sportive. Et ça, pour le commentaire sportif, avec cette idée finalement que c'est un sport qu'on pratique... C'est une profession qu'on pratique par passion. Il y a vraiment des recherches en Suisse, notamment Lucie Soche qui a montré ça, que c'est des métiers qu'on choisit parce qu'on est passionné de sport, etc. Il y a cette idée que les femmes seraient moins passionnées, qu'elles seraient moins légitimes et que la voix, il y avait aussi des commentaires sur le fait que la voix était trop...
Denis Balbière, oui, qui avait dit ça notamment une fois, le commentateur.
Trop aigu pour commenter un match, que ça manquait de rythme, etc. Et donc, c'est plein de stéréotypes.
Il y avait cette question aussi dans le documentaire qui était mise en avant, c'était qu'une femme n'avait pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire Nathalie Yanetta, qui avait intégré le service sport de Canal+, et sous la direction de Thierry Gilardi, lui avait dit moi je voulais pas t'avoir à la base dans mon service, mais je te donne un petit conseil, travaille plus que nous. Parce que si moi je fais une erreur, on va me la pardonner très facilement, on va me dire « Oh, il a juste fait une petite étourderie, c'est tout ». Si toi tu l'as fait, par contre, tout de suite tu vas te faire dégommer parce qu'on va tout de suite te dire, te ramener à ta condition de femme, au fait que tu serais moins compétente que nous et que tu as beaucoup moins de connaissances que nous. Ouais.
C'est très très juste et c'est vrai en fait. Quand il dit ça, c'est vrai en fait. Enfin... C'est horrible de dire ça à quelqu'un, t'as pas le droit à l'erreur, mais en même temps, c'est vrai que si elle voulait se faire sa place, il fallait qu'elle travaille beaucoup plus que les autres pour être acceptée. Et elle y est bien arrivée, hein, Nathalie Yanetta, finalement. Elle est très respectée dans le monde du sport et elle s'est vraiment fait sa place. Mais je pense qu'elle a dû beaucoup lutter et travailler comme une acharnée, en fait, parce que c'est des places difficiles à avoir et que très peu de femmes ont. Et en plus, oui, il faut supporter la pression du harcèlement, justement, parce qu'elles se font harceler par leurs confrères, elles se font harceler sur les réseaux sociaux. Et c'est complexe, en fait, comme position à tenir, en fait.
On constate un progrès, en tout cas, sur le nombre de femmes journalistes sport que l'on voit. On parlait de Nathalie Yanetta, directrice du service des sports aujourd'hui de Radio France. Mais par contre, il y a toujours ces postes de commentatrices quoi, qui ne sont pas pourvus. Quoi, parce que on les voit en bord terrain sur des matchs de football, on les voit à la présentation d'émissions hebdomadaires ou quotidiennes. Voilà. Donc elles ont vraiment réussi à se faire leur place de ce côté-là, parce qu'elles ne sont plus seulement cantonnées au rôle de faire-valoir, mais ce sont vraiment elles qui présentent les émissions, qui donnent la parole, qui lance les choses et qui dirige les opérations, mais commentatrice, alors là, on a toujours ce vide.
Ouais, c'est vraiment le commentaire technique, l'idée qu'il y a une spécificité et c'est vraiment la chose à faire évoluer et à remettre en question, en fait, à déconstruire, parce que une femme journaliste. Et c'était intéressant parce que j'avais analysé un combat de boxe où il y avait Lucie Berthaud qui avait une formation de journaliste et qui commentait un match, mais elle était quand même consultante. Parce que c'était une ancienne sportive de haut niveau. Et c'est marrant de se dire que même quand elle a, je pense qu'elle a quand même maintenant depuis cette époque-là, hein, elle a dû avoir la place à plusieurs reprises de journaliste. Mais il y avait ce moment où, ouais, pour le commentaire sportif, on la mettait quand même comme consultante, en fait. Et c'est difficile, je trouve, de pas octroyer cette place, de ce privilège entre guillemets de le laisser aux hommes et de laisser justement ce male gaze perdurer en fait pour le sport. Et la question, elle est intéressante aussi des femmes dont vous parliez, des femmes en fait qu'on laisse journaliser sur le terrain. Parce qu'elles sont là pour introduire, elles sont là pour faire les entretiens à la fin des matchs, et finalement c'est plus une dimension un peu émotionnelle ou relationnelle en fait qu'elles vont avoir, où elles vont parler avec les gens, faire des retours, leur poser des questions peut-être un peu personnelles par moment, ou demander ce qu'ils ressentent, et du coup ça les cantonne en fait encore à des stéréotypes féminins. En fait, et dès qu'elles sont moins techniques, et les commentatrices sur les plateaux, c'est aussi intéressant d'analyser les physiques aussi, parce que à certaines époques, c'était vraiment des belles filles qu'on mettait en avant pour commenter le sport. Et je crois qu'il y avait une Miss France, il me semble, qui commentait téléfoot à une époque. Qui aimait vraiment le foot, hein, par contre, enfin, peut-être que voilà, elle était vraiment.
Qui avait remplacé Marianne Mako, qui était présentée pareil dans le documentaire de Marie Portolano, comme celle qui avait essuyé absolument tous les plâtres possibles et imaginables pour que ses consoeurs plus jeunes puissent se faire leur place. Quoi. Son traitement était absolument horrible, notamment de la part de Thierry Roland.
Ouais, Thierry Roland, c'est vrai qu'il a pas fait que lui.
Que des choses positives, non, c'est sûr. Je voulais conclure l'entretien en vous posant une dernière question. Ça peut effectivement être à la fois sur cette visibilisation des sportifs, puisque vous avez travaillé là-dessus, mais également sur la visibilisation peut-être des journalistes sportifs, des journalistes de sport féminins. Les pistes d'amélioration, en fait, je me posais la question pour améliorer cette visibilisation des femmes sportives dans les médias, quelles pistes d'amélioration vous avez peut-être pu entrevoir dans vos recherches? On parle parfois de quotas, on parle d'éducation aussi au plus jeune âge, voilà, quelles sont un peu, là vous pouvez développer hein, pour le coup si vous le souhaitez, mais voilà, quelles sont vos pistes d'amélioration?
Bah, je pense qu'il y a une question, oui, de représentation et donc de formation un peu, peut-être dans les écoles de journalisme, en tout cas, à ces choses-là. Sensibiliser les hommes aussi, journalistes, au fait que les femmes ne sont pas plus bêtes qu'eux et sont capables d'avoir un aspect technique, en fait, aussi sur le sport et de commenter les matchs. Je pense que ça c'est super important, et de leur laisser la place, au moins les laisser essayer, et je pense aussi que la question de la redistribution, comme je disais, financière, pour que les femmes aient les mêmes conditions d'entraînement un peu que les hommes, ou les mêmes, qu'elles puissent avoir aussi des sponsors qui les soutiennent plus. Forcément les performances suivront plus en fait, parce qu'il faut qu'elles réalisent des performances exceptionnelles pour qu'on les reconnaisse vraiment comme incarnant la nation, à des moments aussi où ça c'était un truc qui était intéressant, c'était de voir qu'elles incarnent la nation quand elles arrivent par exemple en finale des JO 2012 au basket, là oui, ok, surtout que c'était un moment où les hommes n'étaient pas au top, et dans le football masculin ils avaient fait grève à un moment, et donc il y avait une mauvaise image en fait, et donc là ça donnait un peu une image plus fraîche, mais je pense qu'il y a cette question de représentation et de reconnaissance en fait, que le mépris entre guillemets, parce que les femmes sportives de haut niveau elles ont quand même souffert de mépris, qui est à la fois une reconnaissance culturelle de ce sport de haut niveau des femmes. Qui a un accompagnement aussi pour celles qui veulent être mères, beaucoup plus fort en fait, pour qu'elles puissent reprendre leur pratique sportive dans des bonnes conditions. Ça, c'est des sujets qu'on aborde depuis peu en fait, qu'elles puissent amener dans les grandes compétitions leur bébé, qu'elles puissent qu'il y ait des garderies, enfin il y a des choses à mettre en place aussi à ce niveau-là, je pense, et avoir les mêmes conditions, voilà, au niveau structurel aussi, au niveau des infrastructures, des fédérations, etc. Ça, c'est vraiment un long chemin encore.
Ça doit en passer par la loi, selon vous ?
En partie, oui. En partie, oui. disons qu'on ne peut pas l'imposer net comme ça, parce qu'il faut aussi que ce soit accepté, entre guillemets, par la société. Il faut que ça évolue et que les lois, elles évoluent aussi comme ça pour tout, en vrai. Faut que la société se soit en accord avec les valeurs de la société à un moment donné, on va dire. Mais la question du quota, elle se pose. Moi, je suis pas. Je sais pas si ça résout le problème. Mais je pense qu'il faut en tout cas beaucoup plus investir dessus, beaucoup plus le montrer, et que ne serait-ce que de le montrer, les gens vont se rendre compte finalement que ça fonctionne et qu'il y a un public. À chaque fois, il y a quand même un gros public derrière, il y a des grosses audiences, et ne serait-ce que ça, en fait, déjà, ce serait pas mal. Je pense que déjà commencer par ça, ce serait bien, en fait. Et après, ouais, développer les plans de féminisation à bloc au niveau des fédérations sportives, en fait. Là, ouais, faire des lois un peu plus dures à ce niveau-là, ouais, je pense.
Très bien. Eh bien, ça sera tout pour notre entretien qui a quand même duré 50 minutes. On a bien parlé autour de cette thématique. C'était vraiment bien de vous avoir, Natacha Lapeyroux. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous avez réalisé la thèse qui porte sur les représentations télévisuelles des femmes dans le sport à la télévision en France. Merci beaucoup à vous. Et puis, une très bonne journée à vous. Merci.
Merci, bonne journée.
Média numérique libre. Ondulation.
Ondulation.
Média numérique libre.
Ondulation.
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 Je sais que des fois c'est dur, Laurence.
Laurence.
Et que le temps passe vite. Je ne serai pas toujours l'enfant que tu n'as pas encore.
Mais faisons la fête.
Bye.